plus drôle, plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide, de si et
Fait que c'est quand est-ce que Maxime appelle pour animer?
Ah, peut-on?
Là, on n'a pas d'animateur.
Peut-on ouais. trop aimer? Ben, c'est pas quelque chose ben oui. que je ressens ici présentement. Ben, alors... Décidez, comment allez-vous? Hey, je suis très content. Je
ça
pense
va,
que
ça va.
Ça va être vraiment la meilleure émission qu'on
juste
peut avoir.
Tout le temps ça!
Oui, non, non, mais là, cette semaine, je le sens. Cette semaine, je le sens, ça va être la meilleure émission qu'on a eue. Je pense, là. Je pense que là, on a réussi à avoir le panel parfait.
What?
Ça se peut-tu?
C'est, ça tombe bizarre que le panel parfait soit toujours quand moi, je suis là.
Ah, ben finalement, c'est... peut-être que je suis
là. Et Linda, ah, Linda était là en même temps que moi, la
dernière fois. Il me fait douter, il me fait douter.
Je pense qu'on est à un animateur. Si Maxime était là à ta place,
ah,
panel
oui,
parfait.
Peut-on trop aimer?
Il pourrait être au-dessus de toi, il y a de la place, là, en
ouais,
haut, dans le rouge. Là.
Il serait accroché après les
rues. Sur un petit podium, genre, une chaise de lifeguard.
Debout, au-dessus de toi.
Une petite chaise de lifeguard avec des petites shorts, là, tu sais, qu'on sait pas trop si on voit dedans ou pas, là, tu sais, quelque chose de sexy, là.
Il est où, Maxime?
Je sais pas, je vais l'appeler.
Ah, il manque de quoi?
En plus, il était disponible.
Il était disponible, ben là, appelez-le.
Maxime, appelle-nous, Maxime.
Appelle-nous, appelle-nous. Je suis très content. Donc, la meilleure émission, je pense, parce que j'ai vraiment un petit panel de fou, là, de ouf. Vraiment, j'ai avec moi Guillaume Dupuis. Comment il va?
Très bien, très bien. J'ai des petites nouvelles au sujet du grand sondage Nin versus Nin.
Ça a brassé. Tu t'es fait varloper un peu pour ta démarche scientifique?
C'est intéressant que tu en parles parce que effectivement.
Mais qui a varlopé mon Guillaume?
Ouais. Non, c'est pas moi qui s'est fait varloper, mais c'est Marie-Laurence qui a dû contrôler toutes les soubresauts, hein, les conséquences de cet affrontement-là hein, que je fais.
Qui a affronté mon beau Guillaume?
Ben, Lille Perrault.
Lille Perrault.
Toutes les Perrault.
Toutes les Perrault.
Toutes les Perrault s'est révolté en disant que
c'est Nin
et rien d'autre.
Tu peux passer dans Lille Perrault, il y a des manifs.
Tous ceux qui disent pas Nin sont des pecnos. Et, tu sais, c'est vraiment ça.
On pourrait-tu dire Lille Pecno?
Oh!
Oh my God! C'est pas moi qui l'ai dit!
Moi, je sais pas,
on est-tu en train de... Y a-tu une rivalité Valleyfield-Lille Perrault? Ça existe-tu?
Ça m'est arrivé une fois au Jeu du Québec de pas aimer Lille Perrault.
Les Jeux du Québec. Je vous ai dit, les Jeux du Québec, on n'embarque pas là-dedans ici parce que ça dérape toujours.
C'est là que c'est grâce aux Jeux du Québec que j'ai rencontré Guillaume le Métis Vierge.
Ah, comment qu'il va?
Est-ce que tu peux dire grâce et Guillaume le Métis Vierge dans la même phrase?
À l'époque, c'est ça qu'on disait.
Il est un symbole de grâce. Hein. Mais il va bien, il a l'air d'aller bien.
Oui, il a l'air d'aller bien.
Son speech, d'ailleurs, c'est moi qui ai rédigé son speech qui est fait au Gémeaux, je crois.
Ah oui?
Oui, c'est moi qui avais rédigé.
Ben, moi, c'est moi qui ai rédigé son speech quand il a animé les Jeux du Québec, mais c'était moins controversé. On a moins entendu parler.
J'ai bien tiré les ficelles après.
Non, vraiment, ça n'a pas eu l'effet escompté. On travaillait là-dessus pendant 2 semaines, on l'a pratiqué, on était sûr que ça allait être un hit.
Mais. Tandis que t'es là, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement?
Je pense que c'était assez clair. Je pense que les mots parlaient d'eux-mêmes. Là, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter.
C'est vrai, d'ailleurs, tout le monde a compris.
On est avec nous aussi, Linda Pizza. Comment va, Linda?
Wouhou!
Elle me donne
faim,
cette Linda! À cause de la pizza.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a dit avant l'émission?
Non,
ben, à cause de mon oncle, Linda. Là.
Linda Pizza!
Il allonge pas.
On l'appelle pizza. Elle s'appelle Pizza, ça donne faim?
En fait, non. Mais bon, je reviendrai pas là-dessus. Mais oui, je vais super bien.
Ah, tant mieux.
Oui, je vais bien. Je suis contente d'être là.
Ben, c'est le fun.
Ben oui. J'ai rien à dire pour l'instant. J'ai du contenu tantôt.
J'ai très hâte d'entendre ça. On a avec nous aussi Mathieu Niquette qui rend hommage au célèbre épisode des Simpsons dans lequel Homer porte un gilet rose au travail.
Oui.
Et qui a la voix de Michael Jackson et qui est le seul épisode qui a été retiré, d'ailleurs.
Ah oui?
Ouais.
Pourquoi?
Parce que Michael Jackson est pédophile.
Oui.
Il est pédophile.
Ben, semble-t-il.
Non, mais en plus de mon chandail rose,
ça a l'air qu'on peut plus être pédophile.
J'ai ma casquette LGBTQ
okay.
sur laquelle je mets, dans le temps de la pandémie, quand je taquinais mes amis conspi. C'est une insulte qui revenait à quelques occasions. Puis c'est là que j'ai appris que cette casquette-là, c'était une casquette LGBTQ.
Qu'est-ce qui définit une casquette LGBTQ?
Ben, j'ai pas approfondi la question, mais à mon avis, c'est parce qu'elle est colorée. Puis okay. Tu sais, les couleurs, c'est très homosexuel. Mais Guillaume pourrait nous le confirmer.
Mais oui, surtout que c'est des petites fleurs. Hein, en plus,
je pense. En plus, la nature, un homme, les couleurs, ça fait bizarre, les couleurs de la nature. Tu...
Ouais.
Toi, c'est Guillaume, des petites fleurs et les hommes, d'habitude, non.
Guillaume, tu es un homo.
Homo?
C'est quoi ton rapport avec...
Ashword.
Tu es un homo.
Trouves-tu que je m'habille bien? Trouves-tu que je m'habille bien, Guillaume?
C'est rare, c'est comme ça qu'on dit. J'ai entendu ça.
C'est quoi ton rapport avec les couleurs?
Les couleurs, ben en tant qu'homo, j'aime beaucoup les couleurs.
Je comprends pas ce que
j'aime les petites fleurs, d'ailleurs. Les, non, casquettes, ben moi, les casquettes farfelues aussi.
Okay. Bon, ben, okay. Non, moi, je rebondissais sur le questionnement de Mathieu. Là. C'était pour savoir.
C'est un homo.
C'est comme le gag, l'excellent gag dans J'en suis, sur le lait 2%.
C'est bon, ça.
2% ou homo? Mais, tu sais... C'est du lait homogénéisé, ouais. C'est ça la joke, ouais. En tout cas, bref. Je l'ai vu quand j'étais jeune, puis ça m'a dévasté, là. Quel fait m'horrible.
Ben, je vais me faire la du diable. Moi, je trouve que c'est une grande œuvre.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui boit du lait homo? Moi, je connais personne qui boit du lait homo.
Moi, je prends le moins cher.
On dirait que je l'associe aux personnes âgées. Je sais pas pourquoi.
Ben, moi, j'ai jamais... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
3,25% de matière.
C'est le 3.
Personne dit homo, tout le monde.
Ah, ben ça fait du bon, la belle mousse dans les latés.
C'est vrai.
Ah, ouais, j'avoue.
Ouais, ouais.
Le lait homo, c'est le lait 3,25?
Ouais.
OK, je savais pas.
Et qu'on passe du temps là-dessus, on passe beaucoup de temps là-dessus.
Non, mais je pense que c'est quand même... Les gens écoutent ça pour savoir quoi acheter.
Ben, c'est parce que, quand on n'est pas capable de parler de dèche, il faut parler d'un autre liquide blanchâtre.
Non, franchement, Claude là, blanchâtre.
Semaine, là, cette semaine, on a décidé de ne pas parler de dèche. Fait qu'on on le mentionnera même pas.
Quand vous parlez de dèche, moi, je jaune out tout de suite.
Tu fais bien.
Ben, j'ai pas eu le mémo parce que j'ai vraiment un gros dossier sur la dèche, mais en tout cas, c'est pas grave. Et on a avec nous Murphy Cooper, qui est un collègue du Cult Montreal cette semaine.
Ben oui.
Cette année.
Ben mon fait saillant cette semaine, c'est plutôt que j'ai été exclu de la maison de Big Brother.
Oui.
Hein?
J'ai vu ça passer, oui.
Ouais.
Hein? C'est ben à cause de Marie-Chantal Toupin, je crois.
Exactement.
Voilà. Qu'il y avait eu des propos diffamatoires à ton égard.
Tu t'es fait éliminer par tes pairs ou tu t'es fait kicker out parce que t'as fait quelque chose?
Ben, c'est le jeu. On l'accepte. Hein. Oh, oui, c'est, un coup qu'on est en dedans, c'est très, très intense. On s'aime tous. On est comme une famille. Puis après, ben, on est obligé le jeudi de s'éliminer parce que c'est filmé le jeudi,
oui.
Mais le gala est présenté le dimanche.
Oui, c'est ça. Deux ans plus tard.
C'est ça.
Oui,
c'est
d'ailleurs, ne manquez pas la série Mona, femme de culture, disponible tous les dimanches.
On a un appel.
Sur les sites de Juste pour rire.
Est-ce que c'est Lille Perrault?
Décidérez.
Comme ça, vous pensez que vous êtes en train de faire un podcast de qualité?
Absolument.
C'est Jacques Mercier.
Pensez-vous que la gang de Tout le monde sait est impressionnée par ce que vous faites en ce moment?
Oui, on en
vous avez l'air d'une gang d'amateurs.
Non, c'est ben Jacques Mercier, le coach du national.
Hey, oui, c'est lui.
Okay. Pas
gang de petits suceux de cul à leur moment.
Oh my God.
Monsieur Mercier.
Hey, attention, avant que ça continue, ça va être rough là, s'il continue de parler.
C'est le coach du national.
Ça pense que c'est en train de faire un podcast.
Ben oui.
Vous avez l'air d'être des enfants qui s'amusent d'un carré de sable, si vous voulez mon avis.
Oh my God.
Réveillez-vous. Réveillez-vous sacrement parce que les Russes y en font des podcasts.
Oh, ouais,
Ils doivent en faire plein, ils ont comme un milliard.
Le podcast de Sergei Koulikov, c'est pas de l'hostie niaisage comme vous autres.
C'est quoi pour vous un bon podcast?
Pour moi, un podcast qui a du cœur. C'est un podcast qui se donne son 100% sous ses patins.
Ben oui.
143 millions, Julien.
143 millions, c'est 1 milliard approximativement.
Gang de petits suceux de cul à vos moments.
Quoi?
Okay, ben
il dit ça vraiment. Hein?
Oui, je sais.
Bon,
il dit aussi l'expression gay jamarde quand il parle d'un homosexuel.
Oh.
Ça a mal vieilli.
C'est quoi un gay?
Un gauge, comme un gauge, ben là... pour prendre l'huile.
Hey, ça fait longtemps.
Oh my God!
Parce qu'il pogne son fils avec un autre homme au lit, puis il lance en
oui, je l'ai vu, c'est Robert Brouillette qui fait son fils.
Ça, c'est dans le DVD.
Oh my God.
C'est
Attendez, comment va votre
faut
fils,
laisser les erreurs
Jacques?
Du passé derrière.
Comment va votre fils?
Ça se retourne contre vous, là, un peu, là.
Mais là, réveillez-vous, parce que si ça continue de même, Bernatché, ça s'en va en Russie, puis on le remplace par Pierre Lambert, puis Denis Mercure. Eux autres, au moins, ça joue avec du cœur. Pas des vétérans, pas de couilles comme vous autres.
Ben, mais comment va votre fils?
Parle pas, m'aide pas mon fils.
Ben, merci beaucoup, vous.
Ouais, réveillez-vous, parce que je vais vous dire. Sinon, on va vous mettre en cage comme Vladimir Hébert.
Bon. Ben, merci beaucoup.
En tout cas,
j'étais déstabilisé parce que vu que je sors de Big Brother, je pensais que c'était le maître du loft.
Mathieu,
vous n'étiez pas le maître du loft.
Aïe, il y a tellement de questions, là, mais savez-vous que l'amant de Robert Brouillette dans l'épisode de L'Anse Compte sur le fils de Jacques Mercier qui finalement qui découvre.
Ah, c'est Robert Brouillette, son fils?
Ben, il change d'acteur, là, mais dans le film dans lequel il y a cette intrigue-là, c'est Robert Brouillette. Puis son amant, c'est Normand Damour.
Okay. Ah ouais,
beaucoup.
Oui, mais finalement, le Chris là, parce que c'est un gars qui s'en sac bien raide, puis etc. Puis il a le mais Normand Damour joue dans la nouvelle génération de L'An 50 un autre personnage, fait que là, c'est vraiment mélangeant.
Comme Daniel Laflamme, qui joue deux personnages dans...
Oui, je sais.
J'aurais tellement de questions à Robert Brouillette. Qu'est-ce que vous lui demanderiez, vous?
T'as ton pénis dans Carmina, là.
Ah ben oui,
voilà. Ça, tu étais dur de te convaincre.
Non, c'est sûr.
Ben non, dans les années 90, tout le monde faisait ça.
Ouais, c'est ça, on montrait sa queue dans ce temps-là.
Oui, mais les fesses, toutes les affaires, c'était tout un monde.
Des bons sexes. Un monde de queue d'homme. Mais ouais, moi, je me rappelle, c'est la première fois que mon père a une discussion sur le fait de l'homophobie à la télévision. Là, lui, il avait vu ça, puis il me l'avait. Moi, je pense que je l'avais pas vu parce que ça jouait tard dans ses comptes. Puis il m'avait raconté cette scène-là.
Pour adulte un peu.
Ouais, il m'avait raconté cette scène-là pour me dire comme quelqu'un de wrong va utiliser l'expression gay jamarde.
C'est vraiment. C'est rough, là. Dans ses comptes. Mais tout, c'est pas la pire, là. Il y a
Non. Puis au moins, c'est pas un bon personnage. C'est pas un gentil qui fait ça. C'est pas dépeint comme si c'était normal, au moins. C'est lui qui est dans l'erreur de faire ça, là. Mais c'est quand même que ça sonne à la TV. Là, tu entends ça, là, ça doit être
Je sais
troublant,
pas si je suis pas sûr de ça, moi. Moi, je pense que les personnages assument complètement le langage qu'ils ont. Puis sont, c'est un personnage comme important.
Il maltraite
là,
son fils parce que son fils est homosexuel.
Oui, dans
je pense
cet épisode-là, c'est vrai.
C'est ça, je pense pas que c'est amené positivement.
Il était là, on l'avait au bout du film. Il fait bien le père. Il n'a pas demandé à lui.
Le spécial L'An 50, on l'attendait.
On l'attendait. Mais voilà, alors c'était L'An 50. Merci beaucoup. Comment il s'appelle?
Jacques Mercier.
Merci à Jacques Mercier de ton appel.
C'est hot, c'est vraiment bon. C'est un bon appel. Bravo.
C'est un bon appel. On va débuter avec.
Révéler tout le backstage.
On va débuter avec ma chronique que Jonathan, si tu permets.
Oh!
Alors voilà, alors comme vous savez, les membres Patreon au deuxième tiers, je crois, à peu près, quelque chose comme ça, peuvent poser des questions, avoir des suggestions de chroniques plutôt. Alors nous, on fait ça, si vous voulez, on fait ça sur Discord, écrivez-nous.
Un peu partout, ça va se rendre, si vous nous faites des suggestions. Principalement, ça se passe sur Discord, sur le channel, suggestions Patreon ou suggestions générales.
Discord, Julien?
Même si vous n'êtes pas abonné Patreon, vous pouvez vous abonner, mais on se donne comme devoir une fois par semaine de répondre à une demande spéciale, principalement ceux qui sont abonnés La Casserole ou La Marmite. Mais on prend quand même des fois, on va piger là, pour la populace. Là, des
pour la populace. Et cette semaine, c'est mon tour. C'est mon tour. Je me suis senti interpellé par la question de Mick Archibald qui dit « J'aimerais que Julien nous explique... » Non, c'est pas ça.
T'as pas pris la peine de souligner.
J'aimerais que Julien nous explique la programmation orientée objet. C'est pas celle-là.
Mais c'est un truc qui donne les meilleures suggestions. Ça fait quand même 4 ou 5 fois qu'on prend ces suggestions à Mick Archibald. Fait que lâche pas, mon chum.
Bravo.
Merci, Mick. Mais non, c'est celle juste au-dessus. Ça serait autre qu'une chronique sur les webcomics au Québec. Peut-être même inviter Alex Lévesque. Alors, j'imagine que tu fais un... Merci, c'est une très bonne question.
Il est où?
J'imagine que tu fais un peu référence, justement, à Bernatchez Joe, hein, mon webcomic que j'ai fait pendant 7 ans. C'était une belle aventure avec mon ami Israël, Julien Charbonneau, Étienne Laroche.
T'as-tu mis ton chandail pour ça?
Oui. Par ailleurs, les 26, 27 et 28, mais je pense qu'on est juste là le 27, 28, mais je le sais pas. On va être au festival de la BD de Montréal, alors vous pouvez venir nous voir. Il va y avoir Jake aussi, hein. Vous pouvez nous voir acheter l'album, le fasciner.
Ah, il est fin, Jake.
Et le 3 juin, on sera à Valleyfield aussi pour ça.
Puis le FBDM, c'est aussi le 800e épisode des Mystérieux Étonnants qui va avoir lieu dans le cadre du FBDM, je pense.
Ben, nous, justement, on a notre 801e la veille.
Alors, oui, c'est vrai.
Alors, désolé. Désolé, Benoît. On t'a encore
battu.
Et ben Alex Lévesque, ben tu sais, on s'en a appris à se connaître en fait. Depuis novembre, quelque chose comme ça, on faisait la tournée Con avec lui et Maxime Gervais. On faisait le meilleur de notre contenu solo. Allez voir ça. Ah non, ça n'existe plus. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis j'ai appris à le connaître. Puis je me suis dit, ben je vais l'appeler Alex. Alors, je vais appeler Alex. Alex
tu l'appelles là.
Oui, qui est le dessinateur de dessins bandés. Alors, il faut juste que.
Que tu réussisses à ouvrir ton téléphone.
Ben c'est pas mon téléphone. Alors.
Non, compose le numéro en premier.
Non, on l'a déjà composé avant.
Ah!
Il était déjà tout prêt.
A prepaid account does not have a plan. or your balance is insufficient.
Okay, t'as pas signalé le bon numéro.
Non.
Je pense qu'il t'a donné le mauvais numéro parce qu'il avait composé le
numéro à la base.
Je pense que c'est ma chronique préférée.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?
Aïe, aïe, c'est hot.
Non, écoutez.
Il s'est préparé, là. Il aurait dû faire ça dans, en parlant dans ton Virtual Boy.
Oui.
Oui, c'est ça.
De la seule façon, je te donne tout le sablier.
Oui, là, le temps est compté.
J'aurai pas le temps de faire ma chronique.
On abandonne tous.
On réécoute le message parce que c'est peut-être notre téléphone.
Non, mais honnêtement, je pense que j'ai fait le bon numéro.
Mais peut-être que Sophie.
J'ai fait le bon numéro.
J'adore.
Ah, ça veut dire qu'on n'a pas payé.
OK, bon, ben, on va.
Bon, ben, appelle-la avec ton téléphone.
On va l'appeler avec mon téléphone.
Ouais.
Y a-t-il un jack pour...
Ah, y a tout, Julien. Julien a tout et tout.
Je suis un bon
tout.
Jack.
Julien a toutes les petites
trucs. Il s'agit d'un appel interurbain.
Ah, c'est un appel interurbain.
Ben, c'est un 418.
Parce qu'il vient de Bécomo.
Ah, ben oui. Il va-tu répondre?
Ah, mais le... on va à peu près.
Je vais présumer qu'il va répondre, là. Je sais pas.
Non, même, ça va être bon.
Ça serait un bon tour, hein, de pas répondre. Ah.
Oui, allô?
Ouais.
Ouais, la montre! La montre, c'est Pissed, ça va?
Hey!
Ouais, ça va? Hey, écoute, je t'appelle Alex Levac, donc dessinateur de dessins bandés. On fait un spécial à Décideret où est-ce que il y a quelqu'un qui a posé une question sur les webcomics québécois, puis c'est toi qui fais dessins bandés. Fait que je me suis dit, je vais te poser quelques questions, ça te tente-tu?
T'es-tu? Ouais.
Ok.
C'est comme le sketch.
Tu m'entends correctement, là? Ouais. Alors, c'est ça. D'où t'es venue l'idée de dessin bandé?
Comment j'ai quoi?
Où t'as eu l'idée de dessin bandé?
Où est-ce que j'ai eu l'idée?
Oui, où c'est que t'as eu l'idée, Calis?
Ben, je sais pas. Sûrement chez nous, je sais pas.
OK. Pour trouver tes idées de joke, là... Tu me feras pas à croire que t'écris ça à jeun, là. C'est quelle drogue que tu prends pour trouver ça?
Je sais pas comment répondre à cette question-là. Mais...
Tu m'entends comme il faut, là, hein?
Oui.
OK. Les bonhommes, ils ont comme une grosse tête ronde, là. C'est où que t'as eu l'idée de ça, là?
Chez lui, il l'a dit.
Je sais pas, je sais pas.
OK. Fait que c'est quoi pour toi le projet dessin bandé? Hey, je te dérange-tu, là? Est-ce que je te dérange-tu, là? Qu'est-ce que tu fais?
Ben, je chillais, là, mais j'étais bien. Mais...
Non, mais au pire, si je te dérange, tu peux le dire.
Non, c'est que j'écoutais Simpson avec...
Ben oui, puis tu peux pas le mettre sur pause pour répondre. Où c'est que t'es venu l'idée de dessin bandé, Calis?
Y écoutais-tu l'épisode de Michael Jackson?
J'écoutais l'épisode du monorail.
Ah, bon.
Ouais, c'est
très bon épisode.
OK. Fait que dans le
fond... je sais pas, là, c'est quoi la question, excuse?
Où t'es venu l'idée de dessin bandé?
Mais là, je suis pas mal je suis comme tanné de répondre à cette question-là.
Tu me feras pas à croire, tu me feras pas croire que t'as écrit ça à jeun, là. Quelle drogue tu prends?
Mais là, oui, là...
On est à 20 minutes du début, là.
Au pire, là!
Je suis pas obligé d'être dragué pour... En faire des jokes, là, c'est pas des jokes de fou non plus. Là. C'est...
Mettons, je te demandais pourquoi t'es pas venu à ma fête, tu répondrais quoi?
J'ai pas été invité.
Oui, t'es invité à ma fête.
Ah. Ah, mais ça me tentait pas, là.
Très Ellen de Génération.
Bon, ben écoute, merci beaucoup, Alex.
Merci.
Au pire, tu m'as dit que je te dérange. Bon, va donc.
Hey, c'était bon ta chronique.
Alors voilà, c'était les webcomics okay. Au Québec. Alors, avec la présence d'Alex Lévesque, évidemment, qui est très content de l'avoir.
Mais pourquoi ça l'a arrêté, votre show, si vous avez une si bonne entente?
Ouais.
Je sais pas.
Vous êtes fusionnel.
Non, mais il était occupé. Je sais pas sur quelle drogue qui écrit ça, honnêtement, là, mais en tout cas. On va continuer avec Mathieu.
C'est vraiment ça.
La chronique.
J'avais hâte de vous faire ma chronique.
Oui, je t'ai mis en premier, Mathieu, parce que la semaine dernière, t'avais pas eu le temps de la faire.
J'avais tellement hâte.
Mais Mathieu, je vais te dire, je te mentirais pas, je n'ai pas dormi de la semaine. Ça, c'est pas un mensonge. J'ai pas dormi de la semaine parce que j'avais trop hâte d'entendre ton hostie chronique.
Et
alors, vas-y.
Bullshit.
Avant de commencer, est-ce que tu acknowledges ton tribal chief?
I acknowledge my tribal chief.
On a un appel.
Oh, mais c'est tiens.
Décidérez.
Oui, bonjour. Ici Jean-Claude Archibald des comptes impayés chez Rogers. J'appelais à cause de votre balance de 420,69 qui n'est pas payée sur ce numéro de téléphone-là et je voulais voir comment on pouvait s'arranger.
Ben, est-ce qu'on peut vous rappeler peut-être après l'émission?
Quelle émission? Je vais pas le mettre à pause, messieurs, s'il vous plaît. C'est parce que j'appelle là, des comptes en retard.
On peut pas mettre sur pause. On écoute l'épisode des Monerai et des Simpsons. Fait qu'on peut pas mettre...
C'est un bon épisode, Jim.
Oui, ça, c'est un classique écrit par Conan O'Brien. C'est considéré comme le meilleur souvent par les fans. Mettons, est-ce qu'on peut prendre une entente de paiement, mettons?
Oui, on peut absolument faire
monsieur,
ça.
Monsieur, comment on fait? Comment qu'on...
Ben là, je parlais avec Sophie, puis je pense que si je me trompe pas, monsieur Rogers, on a c'est un manque de minutes là, dans le téléphone.
Exactement, donc c'est ça. Puis ensuite, il y a un solde impayé là, de 420,69 qui s'est accumulé au fil des mois.
Ew. Hey, 420,69. Il a tout pensé. C'est ça avec ces gens-là. Ils ont des petites jokes cachés.
OK, ben écoutez, on va faire une entente de paiement plus tard, là, si ça vous dérange pas.
Oui, d'accord. Donc, si vous pouvez me donner votre numéro de folio d'un compte qui aurait, mettons, 60 à 90 000 $ dedans.
C'est parce que là, Sophie.
On va mettre un petit dépôt.
Monsieur Rogers, parce que là, Sophie est en train de me dire qu'on est avec TELUS. C'est un scam, ça, monsieur.
Ah, ben là, c'est TELUS, oui, c'est vrai. TELUS, c'est un scam.
Non, vous!
Je déconseille fortement d'écouter cette Sophie que je ne connais pas.
OK, ben, on va vous laisser.
Raccroche-le, c'est un accroche trop d'accord.
Il connaît pas sa fille, il connaît pas l'émission. Hey,
je pense que je vais rappeler Alex parce que je suis vraiment pas satisfait de.
Ouais, je pense que c'est une bonne idée.
Ça, c'est un interurbain de la Côte d'Ivoire, je pense.
Bécomo, Côte d'Ivoire.
C'est un podcast international.
On ratisse large. Hein?
Ouais. C'est ça les ondes de la radio.
Là, on a-tu fini ça, là?
Non, il est rappelé.
Ouais, Alex? Ah, on t'entend pas, t'as peu.
Rappelle
Alex?
T'entends-tu?
Ouais, je t'entends. Pourquoi tu voulais pas la faire, la chronique?
Ben là, c'est pas parce que ça... Ben là, la chronique, tu m'avais pas dit que c'était une chronique.
Je sais pas, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe entre nous deux, là?
Ben, je sais pas, là. Je sais pas si tu te rappelles de la tournée, mais...
Ben, je me rappelle pas de tout, mettons, là, mais oui, on dormait dans la chambre d'entente.
Les moments où que tu t'en rappelles pas, peut-être que moi, je m'en rappelle, mettons.
OK, d'accord. OK, c'est pas super le fun comme attitude, puis quand je te parle...
Non, mais c'est pas le fun de se faire des jambettes par un de ses chums, fait que... À répétition.
Ah, mais tu me considères comme un chum.
Avant que tu me donnais au moins une jambette par
non, jour. Mais mettons, ça arrêtait quoi de faire semblant 5 minutes le temps de ma chronique?
Hey, c'est vraiment pas correct, hein, Julien, ce que t'as fait.
Mais oui, mais tu penses que je suis pas le nasty de menteur, moi, là.
OK, bon, ben, gars, on se rappelle tantôt, puis écoute ton
épisode. Je m'excuse, là, Chris.
Ça arrêtait le fun quand même que tu participes un peu. Merci beaucoup, bye. Voilà, OK. Alors, on va continuer avec Mathieu, donc.
Là, rappelle-le pas, là.
No.
Ouais, ben, fait que c'est ça, comme je disais, là. Ah, j'avais hâte de vous faire ma chronique.
Oui,
ben,
j'ai pas dormi de la semaine. J'ai pas dormi de la semaine.
T'as 25 minutes du début de l'émission.
Puis là, moi, je me disais, ça serait le fun de faire une chronique sur savoir, tu sais, c'est quoi les dommages, tu sais, la courbe, mettons, quand tu dors pas pendant un certain temps, tu sais, jour 1, jour 2. J'aimerais ça avoir une chronique là-dessus, éventuellement.
Ah, oh, ouais, peut-être.
D'accord. Je vous fais une chronique sur l'art. Parce que, tu sais, moi, j'ai étudié à l'école d'art. Hein. Moi, j'ai été renvoyé de deux écoles d'art dans ma vie, les amis.
Attention.
Oui, deux fois. Mais là, c'est les écoles comme, de théâtre qui m'ont mis dehors.
Comme ton idole.
Lequel?
Je vais te renvoyer de l'école d'art.
Tu parles duquel?
Ton idole.
Lequel?
Non.
Je vais continuer.
Non, mais nomme-le qu'on se fasse démonétiser.
Mais c'est ça.
Mon chum Adolphe.
Ça marche de même.
Mon chum Adolphe.
On peut pas le nommer.
Je sais pas.
OK, d'accord.
Allez, bref, je vous fais une chronique sur l'art. Joe, je.
Adolphe, ça sonne.
T'étais prêt avec mes enfants. Parfait.
Adolphe, ça sonne comme quelqu'un qui se donne un faux nom au consulat.
Toi, t'es rendu familier avec les consulats en général. Donc, je vous fais une petite chronique sur l'art parce que récemment, en Floride, il y a la professeure, la directrice d'école, Hope Carasquilla, ou Carasquilla, non, Carasquilla, qui était directrice d'une école de Tallahassee, en Floride, donc, qui a été renvoyée à cause de plaintes de parents qui lui reprochaient d'avoir exposé leurs enfants à de la pornographie lorsqu'elle a montré des photos de la célèbre sculpture du David de Michel-Ange. Et là, on parlait des Simpsons, il y a un lien à faire. Il y a littéralement un épisode des Simpsons où est-ce qu'ils mettent des culottes au David, puis... Ça a été fait dans les années 90, puis là, ben, on est comme 25 ans plus tard, puis cette situation-là se présente pour vrai dans nos vies. Fait que, parce qu'ils ont décidé de censurer les œuvres d'art où il y avait des pénis.
Comme Carmina.
Comme Carmina. Donc, Carmina, hey Chris, c'est intéressant, Carmina ne pourrait pas être présentée en Floride en 2023 à cause du pénis de Robert Brouillard.
Il manque ça.
Ben, il manque de quoi, Chris? un peu partout dans le monde, donc les gens ont comme été surpris. Tu sais, les États-Unis, c'est quand même... Ils ont le don de nous surprendre.
Ils sont assez progressistes, notamment.
Puis là, les gens ont comme été surpris. Et ça, en soi, c'est surprenant parce que la statue de David a causé la controverse pratiquement dès le moment de sa création. Michel-Ange ayant perpétuellement été accusé d'indécence dès la sortie de la statue au grand public. La sculpture n'avait pas encore traversé le 16e siècle avant d'être habillée d'un ridicule petit pagne de feuilles de figuier en métal pour son impudeur. Fait que la statue, dès sa sortie, ça a causé scandale, puis ils ont décidé de l'habiller pour vrai, ce que j'ignorais. Puis c'est juste au milieu du 20e siècle que les feuilles ont finalement été arrachées de la fourche de David. Dans une réplique moulée de la célèbre statue qui était exposée au Victoria and Albert Museum de Londres, qui avait été donnée à la reine Victoria en 1857.
Oh, la coquine!
Fait que ça a quand même été long. Fait que la statue a plus longtemps été couverte que découverte, finalement. Mais moi, je pensais que ce pénis-là était là à tout vent depuis tout le temps. Mais non, ça avait été donc enlevé. Là, on l'a remis, comme quoi on évolue bien dans notre société.
Ben, c'est comme un pas en avant, un pas en arrière. On sait qu'on va le redécouvrir, puis le recouvrir, puis le redécouvrir, ça va être ça jusqu'à la fin des temps.
C'est comme changer ses bobettes, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose.
Non, pas
un très bon parallèle. Ouais. Donc, je vais vous parler de 10 œuvres d'art plus récentes un peu, qui ont choqué à travers le temps. Fait que là, c'est comme un top 10, fait qu'on peut dire, on va les faire en ordre.
Murphy va le faire,
C'est pas 10, 9, 8, ça va être 1.
Murphy
va le faire,
ça me dérange-tu si je vais me chercher de l'eau parce que je suis en train de déshydrater complètement?
Vas-y, Murphy. Ouais, la prochaine fois, tu me le diras directement, que tu t'en calisses de mes affaires.
Ouais.
Il y a vraiment de l'eau dans son verre devant lui.
Ils ont bien ça.
Ah, c'est le tien.
OK, au moins. Ouais, c'est ça, ça paraît super mal. Il s'en va juste. Il s'en va. Fait que là, numéro
10!
Un, calé, je l'ai dit. c'est la statue de Mark Quinn qui s'appelle Self, qu'on peut voir là, à l'écran ici, que les gens peuvent voir aussi à la maison. Ça date de 1991. Pour ceux qui sont en audio, je vous la décris un peu. C'est que pendant tous les 5 ans, pendant 5 mois, l'artiste britannique Mark Quinn siphonne 5 litres de son propre sang. C'est comme le sauce 555, finalement.
Ouais. Plus enfant que Nicolas Frey. Ouais.
Il siphonne 5 litres de son propre sang et les verse dans un moule translucide réfrigéré de son visage. Le résultat, c'est une série toujours émergente d'autoportraits dans lesquels l'artiste peut légitimement prétendre avoir versé plus de lui-même que n'importe quel autre artiste qui l'a précédé. Ah. On en voit un exemple ici, mais il fait ça, lui, à tous les 5 ans pendant 5 mois pour récolter 5 litres de sang. Pour certains observateurs, la série qui est encore en cours là, au moment où on se parle, c'est une cascade macabre et vampirique. Ça cause des scandales un peu partout. Pour d'autres, l'œuvre incarne une contribution poignante et audacieuse à la tradition d'autoreprésentation dans laquelle ont contribué de grands artistes tels que Rembrandt, Van Gogh et Cindy Sherman. Une contribution qui met profondément en lumière la fragilité de l'être.
Ouais, c'est ça que j'avais vu aussi. Ouais.
Vous, c'est quoi votre feeling par rapport à ça? Moi, je trouve ça un peu whack, mais je comprends quand même l'idée de... Tu sais, je pas la première fois, là, je pense que des artistes mêlent leur sang, mettons, en peinture, on voit ça souvent. Fait que là, c'est comme un peu l'extrême de ça. On dirait que je savais comme pas trop me positionner par rapport à ça.
T'sais. John Lennon le ferait, on serait content. Quelqu'un d'autre le ferait, on serait pas content.
Ben, tu sais, puis moi, il y a le côté toujours, tu sais, il fait pas ça, il prend pas le sang de quelqu'un d'autre, mettons.
Oui, ce serait plus touché.
Qu'est-ce qui te choque particulièrement ou qui te rend.
C'est quand même intense, tu sais, d'avoir une tête de sang d'humain.
Mais ça.
Comme dans. Tu sais, mettons, t'es là, puis l'œuvre est là. Puis là, t'as une série de têtes faites en sang. Il y a quelque chose d'effectivement.
Ben oui, c'est macabre.
C'est très macabre.
Je pense que ça lui intéresse. Comme un film de Tim Burton.
Qu'est-ce que t'as à dire?
Je disais mercredi.
Quand je trouvais ça intéressant. Avant que Julien fasse le parallèle avec Tim Burton. Maintenant, je trouve ça moins intéressant.
Ah bon, et voilà.
Fait que c'était la première œuvre donc, qui est encore en cours. Ça a commencé en 91, puis c'est encore en cours. Fait que c'est 91, ça veut dire que dans 3 ans, il va être dû pour un autre. une autre face.
Ben, on lui souhaite.
Ben, ouais, on lui
et
souhaite.
Maintenant, numéro
2.
Alan Jones, Chair. Pas la chanteuse, là, mais la chaise. En 1969.
Hey, chair tantôt.
Aucune chaise, lâchez-moi avec ça.
C'est une chaise, comme vous voyez. C'est comme quelqu'un avec le cul dans les airs. Ses jambes sont le dossier de la chaise. Okay. Et on s'assoit sur les cuisses de la personne en
Rick
question.
Rick Owens a une chaise comme ça.
C'est vrai?
Uh-huh.
Rick Owens. C'est qui Rick Owens?
Un designer.
Oh, ouais. C'est un lutteur.
Ben, c'est Kevin Owens.
Ah, d'accord. Ben, c'est pas loin.
Dévoilé donc sous les accusations selon lesquelles son créateur, l'artiste pop britannique Alan Jones, traitait les objets comme des femmes et vice-versa. Chair, je sais pas ce que ça veut dire, le fait de dire qu'il traitait les objets comme des femmes. Je comprends ce que ça veut dire traiter les femmes comme des objets, mais traiter les objets comme des femmes... Je trouve ça un peu bizarre.
Mais dans un contexte BDSM, ça a l'air chill.
Ben, c'est ça. Donc, son œuvre Chair, ainsi que les pièces d'accompagnant At
non, mais
Stand et Table.
Non, mais dans le sens
le petit soupir de Linda qui était comme...
Ben, son concept, dans le fond, c'est de déformer des mannequins féminins légèrement vêtus dans une suite de meubles obscènes de conception non ergonomique. Lors de la Journée internationale de la femme en mars 1986, l'œuvre est aspergée de décapants par deux militantes consternées par la sensibilité chauvine de la sculpture. L'acide a rongé le visage et le cou, faisant fondre le seau périlleux maladroit dans lequel le travail en PVC était à jamais figé. Dans un canard rouleau désespéré. Ça, c'est une mauvaise traduction de quelque chose que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bref, ces œuvres-là ont fait scandale parce que c'était immensément sexiste. Puis ça a été fait en 1969 où est-ce que les femmes, tu sais, commençaient à comme s'affirmer. Puis à... Fait que, tu sais, on dirait que c'est comme en réaction à la montée du féminisme des années 60.
Il y a une arrogance. Là.
Oh, ouais, oh, t'sais, ouais. T'sais, de nos jours, là, tu fais ce serait genre d'œuvre que un Jordan Peterson mettrait de l'avant là, avec grande fierté. Là,
puis il la vendrait bien.
Puis il la vendrait bien, malheureusement. Ouais. Ensuite, numéro 3.
4.
Piero Manzoni avec sa célèbre œuvre Merda d'Artista. Ça, c'est une que je connaissais déjà de 1961. Ben, tu sais, il y a toujours une fascination autour des excréments et tout ce qui, ce qui entoure. Il y a eu la fameuse toilette de Marcel Duchamp. Qui est une œuvre célèbre, là, qui est juste un urinoir comme ça, là, qu'on a exposé. Piero Manzoni, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a mis son caca dans une canne de conserve.
Le premier à le faire, puis c'est correct.
Ben, c'est ça, ouais. C'était le deuxième.
C'était le premier, c'est correct, c'était le deuxième, c'est dégueu. C'est toujours ça, hein?
Fait que, il y avait déjà, lui, comme il y avait déjà une démarche, tu sais, où est-ce qu'il mettait de son intérieur dans son art. Un an plus tôt, il avait laissé les observateurs concernés en présentant un ballon rempli de son propre souffle comme une œuvre d'art.
Je pensais comme une ballonne.
Comme une ballonne.
Oui, comme là, on fait à des fêtes d'enfants.
Exact. Mais là, c'est présenté comme une œuvre d'art.
D'accord.
Il a fait exactement la même chose, mais avec. Il a entassé dans 90 boîtes de conserve 2700 grammes de ses propres excréments. L'œuvre est considérée comme une réponse élaborée à un commentaire dérisoire que son père, qui possédait une conserverie, lui a fait un jour, assimilant son travail à des excréments. Fait qu'il a dit ton art, c'est de la merde.
C'est pas
lui
tant
a fait, et si c'était
au pied de la
littéralement
oui,
de la
c'est
merde.
Pas l'œuvre, c'est la démarche. La démarche derrière l'œuvre, c'est toujours ça. Hein.
Mon père a travaillé avec Stéphane Rousseau chez Continental Cannes. Voilà. C'était mon anecdote.
Stéphane Rousseau, tu as travaillé dans le monde de la Cannes.
Oui, au début, avant qu'il devienne humoriste.
Wow.
Uh-huh.
J'aurais une suggestion. Mettons que tu en fais 5 maintenant et 5 plus tard. Ça nous permettrait de bien en discuter.
J'aime ça.
Je sais pas.
J'aime ça.
Ben, on va faire ça.
J'aime ça. Puis, c'est ça, donc, le père de Piero Manzoni s'est bien fait avoir parce qu'en 2016, il y a une des canettes de caca de son fils qui s'est vendue aux enchères pour 275 000 euros.
Non.
Ouais, 275 000 euros. Fait que...
C'est toi qui as acheté ça?
Ça fait partie de l'œuvre, là.
Ah oui, c'est la démarche. Je sais pas, c'est pas dans l'œuvre.
Tu sais, les...
C'est ça l'odeur chez toi. Oui, c'est... OK.
J'aime plus l'art de Happening, moi, à la Martha Argerich.
C'est quoi?
Non, c'est la pianiste. Non, je mélange avec...
Elle
fait du Happening aussi.
Elle fait du caca sur un piano.
Je vais vous le trouver, son
d'accord.
Nom. Mais moi, j'aime beaucoup ce que fait Yoko Ono, là. C'est mon genre.
Yoko Koko.
Yoko Koko.
Ensuite, numéro 4!
4!
Erased, The Kooning Drawing, ça s'appelle, par Robert Rauschenberg, de 1953. En 1953, donc la même année où les conservateurs du musée que j'ai nommé plus haut, le Victoria and Albert Museum de Londres, croyaient que les yeux modernes pouvaient manipuler les parties génitales, pouvaient pas endurer les parties génitales de David, l'artiste américain Robert Rauschenberg a essayé de dépouiller l'art. Il a essayé de complètement dépouiller l'art. Il dit, il se demandait si une œuvre d'art, ça pouvait être créé en enlevant quelque chose.
C'est ça.
Plutôt qu'en ajoutant quelque chose. Oui. Oui. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à son ami, un peintre abstrait, un artiste visuel de l'abstrait néerlando-américain Willem de Kooning de sacrifier un de ses plus récents dessins. Fait que pris le dessin de la barre de Kooning, il l'a effacé avec une gomme à effacer, puis il a présenté ça comme une œuvre d'art. Fait que son œuvre d'art, ça se trouve à être le retrait de l'art plutôt que de démontrer l'art.
Ça suffit d'être le premier. T'es le premier, c'est de l'art, c'est le deuxième, c'est de la merde.
Fait que le résultat, c'est un papier un peu scrap avec une image à peine perceptible. Puis c'est de décider en tant que spectateur est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art? Est-ce que c'est une image?
Ça ne passe pas. Ça passe pas pour moi.
Ça nous fait réfléchir sur l'art.
Non,
mais c'est vrai.
Ça ne passe pas avec moi.
À ce moment, qu'est-ce que ça fait, ces œuvres-là? Ça nous permet d'en parler.
Oui.
De parler de l'art.
Puis là, le fait de perdre une œuvre d'art, ça permet d'en créer une autre. C'est comme le recyclage de l'art.
Il y a un nombre d'art maximum.
Ben, dans ce cas-ci, oui. Là,
il y a une mauvaise foi.
Parce qu'une œuvre d'art ne peut pas exister sans l'autre avec cette démarche-là.
C'est vrai.
Fait que c'est comme plus du, on dirait comme du parasitage, si on parle en termes animaliers, tu sais. Lui, il a besoin de s'abreuver, de tuer une autre œuvre d'art pour créer son œuvre d'art. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans quand même.
C'est intéressant, oui, c'est vrai.
Numéro 5! Numéro 5, c'est la pièce Judy Chicago, de Dinner Party de 1979. Je vous avoue...
C'est des assiettes pleines d'excréments.
C'est composé de 39 couverts commémorant la contribution des femmes à l'histoire culturelle. Fait que la table de banquet de l'américaine Judy Chicago a été à la fois acclamée pour sa perspective pionnière et ridiculisée pour sa vulgarité choquante. L'œuvre est dominée par près de 20 d'assiettes en porcelaine peintes à la main, dont beaucoup sont décorées d'un symbole de papillon en fleurs ressemblant à une vulve. Estimant que l'œuvre a trop de vagin, l'artiste britannique contemporaine Cornelia Parker a méprisé l'installation dans The Guardian.
Combien de vagins c'est trop de vagins?
Oui, c'est ça. À partir de combien de vagins c'est trop de vagins?
Combien de vagins c'est
trop? Y a-t-il trop d'humoristes au Québec et y a-t-il trop de vagins?
Selon toi, Guillaume, combien de vagins c'est trop de vagins?
Pour vrai, tu demandes pas à la personne qui a un vagin.
Ouais, en plus, tu passes par-dessus la personne qui a un vagin pour le demander à un
homme. Aïe, aïe, aïe.
Et moi, là, j'ai de perdre mon érection.
Ah ouais.
Ah ouais. Ah ouais.
Mais est-ce de l'art?
C'est ça qu'on se demande.
Je parle de Décideret.
Ben oui.
C'est ça, tu sais, c'est que ça a causé une controverse dans la mesure où il y a des femmes qui disaient, tu sais, on n'est pas juste des vagins, tu sais. Puis là, la façon de représenter la femme dans cette œuvre-là, c'est que de mettre plein de vagins partout. Mais en même temps, tu fais d'exposer les vagins comme ça.
C'est des vagins ou des vulves?
Ah ben là, dans mon texte, on dit vagin, mais effectivement, ça doit être plus des vulves.
Ben oui, come on.
Forcément,
si c'est externe,
vulves.
C'est la vulve. Ouais, c'est ça. Si c'est interne,
forcément,
c'est le
vagin.
C'est des
vulves. Mais
ouais.
C'est interne, c'est le trou de cul.
Pour toi, oui.
Ah, okay,
mais moi, j'ai deux options.
Ah oui, ben oui, c'est vrai.
Le petit trou de cul à Julien.
Tantôt, je parlais de Marina Abramović.
Oui.
Voilà. Puis un de ses happenings au moment qu'elle a fait, c'est qu'elle était assise. Et les gens pouvaient venir tour à tour s'asseoir devant elle et dans le silence se regarder. Et à un moment donné, il y a son partenaire de plusieurs années avec qui elle n'était plus.
Oulai.
Oui, voilà.
Oulai.
Et ils se sont assis face à face et ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Ils se sont regardés en silence et ça a l'air que c'était un moment extraordinaire.
Ah, c'est beau.
Ça a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux.
Oulai est décédé il y a quelques années.
Très Murphy Cooper comme,
Comme démarche.
Comme exercice.
C'est vrai, tout ça sur Oulai parce qu'une de mes amies a fait sa maîtrise sur une œuvre de Oulai, Dolores, qu'on salue.
Salut Dolores.
Salut Dolly.
Voilà, ça m'a permis de connaître cet artiste grandiose.
Par ailleurs, la prochaine rencontre d'équipe de Décideret va être comme ça. On va s'asseoir un devant l'autre en silence.
Au moment.
Au moment. Puis on va se regarder. Et je sens que ça va élever le niveau un peu.
Peut-être plus d'ambiance que dans notre première demi-heure.
Au moment.
On
serait-tu capable d'assumer un épisode complet où on est en silence?
On pourrait.
Pendant une heure.
Ouais, ça serait du podcast.
C'est déjà ce que je fais tous les jours. Sur le point de la rue.
C'est vrai.
Au Mac.
Je sais pas si on perdrait notre podcast là, juste pour rire. Si on faisait un épisode où on
dit pas. Ouais, t'es toujours en silence, là.
C'est une drôle de zone.
Peut-être.
Non, moi, j'ai l'impression.
Ça fait plaisir. On se revoit plus tard.
On se revoit plus tard. On va continuer avec Linda. Linda, Linda, ma Linda. Linda, Linda, I love you. The magic of your eyes, the spirit of your soul, the presence of your love now lies through. Linda, qu'est-ce que tu vas nous parler cette semaine?
Qu'est-ce que je vais vous parler? Mais... j'ai fait si peu d'efforts pour ma chronique parce que il y a une de nos followers qui s'appelle, ben, son nom virtuel, c'est Macafou. Je te salue puis je te remercie énormément. Tu m'as fourni du stock parce que j'avais mentionné à une dernière émission qu'il fallait que je parle d'allergies croisées parce que c'est le fun comme sujet. Et elle m'a envoyé un tableau qui est super, super pratique, qui parle en gros du fait que quand tu as de l'allergie à certains pollens, tu peux avoir des allergies aussi à certains aliments, puis des fois, c'est surprenant, ça n'a aucun rapport. Si vous êtes allergique au boulot, surtout, ça va se présenter pas au boulot, pas au travail.
Quand
t'aimes
pas travailler. Oui. Moi, j'aime pas travailler. J'aime mieux dormir, moi. Voilà.
Oui. Alors, j'ai apprécié.
Merci.
Et ça va se manifester surtout au printemps, ce pollen-là. Vous pouvez apprendre que vous êtes allergique, entre autres, par exemple, à la pêche, à la cerise, au kiwi, à la pomme, à la prune, à la carotte, au céleri, au persil, aux arachides, aux fèves de soya, aux amandes, aux noisettes.
Prenez
qu'est-ce
des
qui
notes.
Se passe?
Est-ce oui. que je peux mentionner quelque chose?
Oui!
Je suis allergique au kiwi. C'est ma grosse, grosse allergie. Quand je goûte le kiwi, quand je goûte une orange qui a touché un kiwi, je fais une réaction allergique. Je ne peux pas manger.
Alors,
ma gorge gonfle, puis je ne peux pas... je peux plus manger du reste
c'est
de la journée.
C'est tellement dangereux, les allergies alimentaires. Moi, une fille qui nous disait à l'école, elle disait...
C'est pas si dangereux,
c'est le fun. Disait, c'est le fun quand tu manges du kiwi, hein, le petit feeling piquant, puis on était comme, c'est vraiment pas ça.
J'avais une ex, mais... là, elle dit, c'est le fun de manger de l'ananas parce que ça me donne chaud. Là.
Oui. Non, c'est pas ça. T'es pas supposé te sentir dans le
mais
sud.
Quand une fille mange de l'ananas.
Mais là, c'est allergique. Oui.
Puis, il m'avait fait des petites prises de sang avec une petite aiguille. Puis, effectivement, il m'avait dit boulot.
Boulot, puis il faut que tu fasses attention aussi au latex. Fait que si tu veux faire comme ben des gars,
t'es
allergique au latex, tu peux le dire, à cause
du kiwi. Non, je suis pas allergique au latex.
Puis au sésame, peut-être que ça pourrait se développer.
Bon. Sésame, ouvre-toi.
Les amandes, puis les noisettes, les noisettes fraîches cueillies d'un arbre, ça me fait réagir.
Les noisettes fraîches, mais pas les noisettes pas fraîches.
Je sais pas pourquoi, mais effectivement, en arrière de chez nous, on avait des noisettiers, puis on en mangeait quand on était petit, puis ça me rendait allergique. Je me sentais pas bien.
Est-ce qu'il y a arrosé avec des pesticides, là? Ou...
Non.
C'est qu'il y a une protéine commune entre l'arbre qui cause, l'arbre ou la plante qui cause, dont le pollen cause l'allergie, et certains aliments. C'est vraiment une protéine commune qui fait qu'une réactivité croisée. J'ai l'air brillante, je suis en train de lire la feuille. Et ça peut entraîner des symptômes d'allergie, mais dans le cas, comme on disait, d'allergie alimentaire, ça peut être vraiment, vraiment grave. Puis là, je suis en train de lire que l'allergie au latex, ça là, tu peux avoir des réactions abricots, agrumes, amandes, bananes, betteraves. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ma copine est allergique au latex.
Ah oui?
Ouais, puis
là, il faut qu'elle fasse attention.
Qu'est-ce que ça fait?
Il y a quelques trucs, tu sais, comme par exemple, être incapable de manger quoi que ce soit de piquant. Puis je me demandais si ça pouvait avoir un rapport. Puis peut-être que.
Je vais te poser la question que tout le monde se pose à la maison, Mathieu, là, pour vos rapports sexuels, qu'est-ce que vous faites?
Ah ben, il y a des condoms en latex, Julien.
Ah oui, c'est le fun.
Les condoms skin.
T'as plus d'excuses, Julien.
On est rendu là.
Alors, non, mais une réaction qui peut être très, très grave.
Un petit peu de.
Ça peut se rendre à l'anaphylaxie. Faites attention, les allergies alimentaires. Et ça se définit par des difficultés respiratoires, des crises d'asthme, signes digestifs comme de la diarrhée, vomissements, des malaises, sensations de mort imminente, tabarnak, perte de connaissance, voire coma. Et j'imagine la mort. Là. Et si c'est arrivé dans un personnage de Bridgerton, je vous dirai pas l'intrigue. Je fais une petite parenthèse sur Bridgerton.
Oui,
c'est une série.
Il y a beaucoup de nos auditeurs qui aiment Bridgerton.
Bridgerton, ça vient d'une série de livres. C'est une série comme romantico-historique où chaque enfant de la famille Bridgerton se match dans une saison et c'est de l'hostie de marde. N'écoutez pas ça, ne perdez pas votre temps précieux.
Hey!
C'est plein de clichés.
Diffamation!
Diffamation, ça comme véhicule, en gros, l'idée que si t'es quelqu'un qui a des blocages, puis des troubles mentaux, puis des traumatismes, tout se règle et ensuite tu tombes en amour, tu te maries, c'est de la calisse de marde.
Ouais, mais ça, c'est dans l'ancien temps.
L'ancien temps, où il n'y avait pas le lithium. Mais bref... Voilà, fallait que je parle contre Bridgerton parce que je trouve que c'est de la calisse de merde.
Ben,
alors, on revient à notre sujet. les allergies, je me suis posé aussi la question parce que là, je suis allée chez Guillaume Chou cette semaine.
J'ai toujours sur Instagram.
J'ai toujours une hésitation parce que moi, pendant toute mon enfance, je ne pouvais même pas, mettons, exister dans la même maison qu'un chat. Mettons, j'allais chez quelqu'un qui a un chat puis j'avais un œil immanquablement qui gonflait puis c'était comme vraiment pas bien.
Comme Gimpy.
Et mon allergie a évolué. Et je suis maintenant capable d'être dans le même lieu qu'un chat, puis même un de tes chats est venu me sentir. Et je n'ai pas eu de réaction. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, j'ai deux chats.
Ben oui, deux chats. Et j'ai appris que les allergies ne sont pas statiques, mais dynamiques. Julien.
Oui.
Voilà. Wow. Et tu peux, comme, développer et perdre des allergies. Elles peuvent changer en intensité au cours de ta vie.
Moi, je désire en développer plusieurs, mettons.
Hein?
Je désire développer plusieurs allergies. Qu'est-ce que
mais pas au lactate.
C'est dur à développer.
Expose-toi pratique des choses, parce qu'une allergie, ça arrive à la deuxième exposition.
Ah. Moi, j'ai été allergique de 19 à 25 ans pour la fin de l'été, là, je ne sais pas, les foins.
Oui.
Puis, très, 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 très allergique. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était disparu.
Oui, moi aussi, ça m'est arrivé. C'est fascinant.
Pas le fun, la fin de l'été.
C'est pas le fun. Je lisais un exemple d'une dame qui est devenue allergique aux acariens à 82 ans. Et ça s'expliquerait probablement parce que notre système immunitaire, il vieillit aussi, comme nous. Donc, il y a des choses pour lesquelles il se met à réagir bizarrement. Sachez que ça peut évoluer. C'est une bonne nouvelle. Je suis la preuve vivante et tu es la preuve vivante. Et voilà, ne cessez de vous exposer aux choses dangereuses. Non, c'est le pire conseil.
Bien joué, Lynn. On va garder juste cet extrait-là.
Non!
Exposez-vous aux choses dangereuses.
Linda Danger.
Exposez-vous à des choses dangereuses. C'est
Linda. allez lire sur... j'ai pris ça sur Allergies Alimentaires Canada.
Tout le temps
les allergies croisées. Ouais. Vous allez croiser Julien, justement, sur ce site.
C'est mon réseau social préféré.
Voilà.
Hey, mais il y a tellement d'affaires bizarres là-dedans parce que moi, je suis super allergique à l'automne. Mais là, ici, selon...
À l'automne, ça serait l'armoire, surtout, qui cause les allergies.
Mais j'ai pas d'allergie à la saison, Julien.
Julien pense que t'es allergique à la saison de l'automne.
Mais ça, je veux dire, ça arrive à certaines personnes, mais c'est pas automatique.
Quand j'étais jeune, j'étais... Tu sais, quand je disais les
moi, c'est l'hiver, pas capable.
Mais beaucoup d'aliments crus aussi, comme la carotte, le brocoli, tous les légumes crus, ça me serrait la gorge. Puis quand on les faisait cuire, ça me le faisait plus.
Ben c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, dès que je pèle l'aliment ou que je le cuis, ça annule cette protéine-là qui est problématique puis qui cause l'allergie.
Ben, de la même pas façon, faire de je pense test, que les noisettes qui en mûrissant, ils doivent avoir un changement
peut-être
chimique.
Les vieilles noisettes, on va se régaler. Merci beaucoup, Linda.
Un plaisir.
On va continuer avec Murphy.
Murphy.
On va jouer ta chanson.
Murphy.
Murphy
Cooper.
Murphy Cooper,
le détesteur. Le détesteur.
T'es-tu bien réhydraté, là?
Ouais, mais je suis fatigué. Okay. J'ai fait beaucoup de Bixi aujourd'hui. Je suis allé travailler au centre-ville, c'est-à-dire m'exposer pendant 20 minutes sur le coin de rue sans bouger.
Est-ce que M. Simpson t'a dérangé?
Non, pas aujourd'hui, parce que j'ai dit que j'allais y retourner parce que je voulais montrer que j'avais pas peur, mais j'ai peur.
La vérité, c'est
j'ai peur.
On a peur pour moi, oui.
Ouais. Fait que je vais ailleurs maintenant. Mais, fait que c'est ça. Ah,
c'est pas que ça m'intéresse pas, Murphy, mais je vais texter en même temps, OK?
Il n'y a pas de problème, tu peux aller te chercher de l'eau si tu veux. fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, moi, j'avais dit que ma chronique, ça serait... Je parlerais du fait de pourquoi j'aime pas le soleil. J'ai de la difficulté avec le soleil. Pourquoi? Je suis pas confortable avec le retour du printemps et de l'été. Et là, je suis un peu fatigué, puis je me dis, bon, on va y aller à la manière Jean Cocteau dans son message à l'an 2000. Il avait fait ça, il avait fait un message, il s'adressait à l'an 2000, et c'est sur YouTube aujourd'hui.
Pas sûr qu'il ait fait ça, non?
Oui, il a fait ça, tu vas voir. Et il s'adressait à l'an 2000.
Est-ce que t'es plus connu que Jean Cocteau?
Ben non, absolument pas.
Moi, oui.
Et... Puis dans cette vidéo-là, Jean Cocteau, il disait « Laissez le schizophrène en vous parler », en parlant de son âme artistique. Tu sais. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que je me suis pas pratiqué, j'ai juste pris des notes. Puis ça donnera ce que ça donnera.
Tu vas nous faire un slam?
Non. Ah. Fait que c'est ça. Fait que...
David Goudreau de Décidéré.
Ah oui.
Fait que... Je m'excuse.
It's all good. Bon, ça fait 5 minutes, là, j'ai fini. Mais fait que c'est ça. Fait que quand j'étais plus jeune, j'étais un des seuls petits gros de mon école. Et les gens qui étaient minces, pratiquement tout le monde, la quasi-totalité de mon école, se comparaient pas entre eux. J'avais pas réalisé ça. Ils n'étaient pas en compétition entre eux à ce moment-là. Ils voulaient juste s'assurer d'être normaux. Et dans le fond, moi, j'étais toujours le point de comparaison. Fait que c'était comme ces gens-là se félicitaient entre eux de ne pas être comme moi plutôt que d'être en compétition, genre comme, mettons, moi j'ai plus d'abdos que toi ou blablabla. Non, non, c'était tout le monde se félicitait de ne pas être le seul petit gros de l'école, tu sais.
Ah bon?
Et très tôt, je me suis fait sexualiser, de, parce que, tu sais, mettons, quand je me levais pour aller aiguiser mon crayon en avant, les gens regardaient mes cuisses, les gens regardaient mes fesses, les gens regardaient mon ventre, et on se servait de moi. Tu sais, on me plaçait dans des scénarios comme pour provoquer le dégoût chez d'autres élèves, pour se moquer d'eux. Tu sais, on disait par exemple, ah, tu sais, toi, tu t'es dans telle relation avec Murphy Cooper. Mais c'est pas mon vrai nom, là, Murphy Cooper. Mais puis, et là, tu sais, ben, puis c'est ça, tu sais, puis, et les enseignants, tu sais, ils étaient manifestement amusés par ça, mais il n'y avait pas le choix. Puis même au primaire et au secondaire, les enseignants étaient manifestement amusés par ça. Je le voyais, je le ressentais. J'étais vraiment seul au monde, là. Même les adultes étaient contre moi. Et là, bon, ils tapaient sur les doigts ces élèves-là, de ceux qui se moquaient de moi. Et ils leur disaient « Ha, 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 peux-tu arrêter, s'il te plaît? » Et c'est ça. Et tout au long de l'année, tu sais, moi, je me disais, ben tout ça, c'est de la théorie. Je n'ai que quelques intimidateurs, tu sais.
C'était l'époque de Limp Bizkit aussi.
Ouais. Ben, et de Jerry Springer. Mais ouais. Et tu sais, fait que moi, je me disais, tu sais, je peux facilement me dire, ça, c'est les estis douchebags, c'est des crétins, c'est les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, les gens qui parlent à travers leur chapeau. Fait que, tu sais, moi, je me disais, c'est pas tout le monde qui pense ça de moi, tu sais. Mais là, mais le truc, tu sais, c'est que rendu au retour du soleil, du beau temps, du printemps, de l'été, c'est là que ça passait de la théorie à la pratique. Et là, tout ce que ces intimidateurs-là m'avaient dit tout au long de l'année, « T'auras jamais de copine, tu trouveras jamais personne pour aller au bal, tu sèmes le dégoût, si tu vas te baigner, mets-toi un chandail, blablabla, puis tout ça. » Rendu à l'été, je me suis rendu compte que, tabarnak, il avait raison, tu sais. Pas qu'il avait raison de dire ce qu'il disait, mais comme ça se produisait, c'est ça. Ça se matérialisait, tout ce qu'il m'avait dit. Fait que j'étais juste comme, OK. Fait que là, je voyais tranquillement que les gens comme manigançaient pour... Tu sais, ils faisaient des parties ensemble. Puis moi, dans ma tête, je pensais que tout le monde, le vendredi soir, était bien tranquille chez eux, comme moi, parce que, tu sais, il n'y a personne qui m'invitait à aller dans des parties. Parce que c'était des jeunes ados qui expérimentaient, tu sais, qui avaient leurs premières relations sexuelles, puis des trucs comme ça entre eux, tu sais. L'été, ils campaient dans leur cour avec leur tante, puis mettons, ils sortaient par la fenêtre de chez eux, ils allaient se rejoindre à un point de rencontre la nuit, puis il expérimentait, il faisait des trucs, puis tout ça, puis blablabla, puis tout. Puis, ben c'est ça. Fait que moi, j'ai juste réalisé à un certain moment que, ben c'était pas pour moi, ça, le soleil, le retour de l'été, du printemps, puis tout ça, parce que c'était pour ces gens-là, tu sais. Ils m'ont rentré dans la tête que c'était vraiment juste pour eux et que moi, j'avais pas droit à ça. Et là, ben c'est ça, tu sais. Fait que moi, comme j'ai jamais voulu être une victime, puis je suis quelqu'un de quand même débrouillard dans la vie, ben j'ai contourné tout ça. Et c'est comme ça que je me suis mis à juste préférer le temps gris, préférer les nuages, la pluie, les tempêtes, les orages. Et je laissais le soleil, le ciel bleu aux personnes minces et à la classe moyenne, mais ça, je pourrais en parler dans une autre chronique.
Ça, ben, les personnes minces, ils ont gatekeep le soleil, carrément.
Ben moi, c'est comme ça que je l'ai
vécu. Pour toi, ton cauchemar, c'était d'aller dans le sud, mettons, tu sais.
Parce que heureusement, j'avais Vers le soleil remix de Mario Benjamin. Ah
oui. Es-tu déjà allé dans le sud?
Non, jamais.
Moi non plus.
Mais c'est à peu près ça ma chronique, tu sais. Puis à chaque année, quand le tu sais, à chaque fois que
ramène mentalement à cette époque-là.
Ça me ramène à mes traumas d'enfance, d'adolescence, de début de vie adulte. Et quand à chaque fois que je m'enthousiasme, je me surprends à m'enthousiasmer du retour du printemps et de l'été puis tout ça, mais les premiers temps, les premières journées, premières semaines, c'est tout le temps extrêmement difficile parce que je me rappelle que c'est pas pour moi. J'ai toujours eu l'impression que c'était pas pour moi.
Est-ce qu'il y aurait moyen, je me pose la question puis je réfléchis vraiment tout
de
haut, mais
le
un
soleil.
Peu comme, non, au contraire, comme un peu comme j'ai fait...
Comme dans Highlander 2,
comme oui, M. Burns.
Un peu comme j'ai fait avec les chats de Guillaume, un peu te faire de la thérapie d'exposition, peut-être en ayant une lampe de lumière solaire l'hiver,
une
un peu comme pour
soleil.
Le prévoir venir de plus en douceur, de faire que le soleil va
tout
revenir.
Le temps dehors, je suis toujours dehors, mais je m'adapte très bien au soleil, c'est juste que je me suis tellement adapté que je préfère, tu sais, j'aime le soleil quand, par exemple, le temps est en suspens, dans les temps de canicule, quand il fait extrêmement chaud à l'extérieur, je peux aimer le soleil, mais quand c'est trop normal, quand j'ai l'impression que ça appartient aux gens qui m'ont exclu de la civilisation, là, je vous laisse ça. Puis moi, ben j'aurai mes journées j'aurai mon temps gris, j'aurai mes canicules,
c'est
j'aurai
pour
mes
ça qu'on
tempêtes.
T'appelle le poète,
le poète
des temps gris.
Poète ben oui. des temps gris.
C'est pour ça?
Absolument.
Mais t'es aussi dans le corps de Montréal.
C'est pas grave. Oui.
Oui, moi aussi.
Uh-huh.
On pourrait en parler un peu.
Ben, je suis encore une fois cette année, je suis le number one best dressed Montrealer.
Hey. Yeah.
Puis je pense pas que ça soit le cas parce que tu sais, je néglige un peu mon look dans le sens où.
Là, t'as pas croisé tous les Montréalais non plus.
Ben c'est ça. Tu sais, mais merci aux gens qui ont voté pour moi. Moi, je suis plus, je crée des vêtements pour les autres et je porte ces vêtements-là, je les parade, mais je considère pas que je suis le. Personnellement, je pense pas que je suis le best dressed Montrealer.
C'est plus moi.
Ok. Je suis le...
Ouais.
Je suis le gars qui a pas enlevé la bouloche sur son chandail.
Ah, la bouloche.
La bouloche.
Je suis le number one TikToker. Bravo. Ça, par contre, je peux le prendre. Je peux vraiment le prendre parce que... J'ai eu une très, très grosse année sur TikTok. J'ai eu beaucoup de millions de views cette année. Et là, j'entame ma troisième vie sur TikTok où est-ce que là, je vlogue. Et ça marche. J'ai parlé de deuil. J'ai eu un bon 300 000 views sur une de mes vidéos.
Quand tu dis tu vlogues, c'est comme Dominique Carpin, dans le fond? T'es comme Dominique Carpin.
Uh-huh.
Ben, il y a la fin.
Oui, gentil. On est dans le même documentaire. Oui.
Moi, je suis numéro 2, Weirdo.
Best Weirdo.
Uh-huh. Mais numéro 2. Je suis numéro 1 l'an passé. Bon, on va se reprendre cette année.
C'est qui le numéro 1?
C'était-tu correct comme chronique?
Ouais,
parce que c'était vraiment très, très improvisé.
C'était parfait.
Les gens qui ont payé pour écouter ça, je suis désolé.
Oui, ben les gens payent assez cher pour écouter ça, mais non, je pense que tout le monde est satisfait. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour continuer, Guillaume.
Il n'y a absolument aucun problème, Julien.
Il n'y a pas de problème.
Non, c'est une blague, il y a
un garçon
gros problème.
Qui aime beaucoup tout. Oui, c'est la chronique de Guillaume, votre meilleur ami.
Cette chanson. Alors, tu as 8 minutes, Guillaume.
J'ai 8 minutes.
Ben oui, on défonce.
T'as 8 minutes, vas-y.
On défonce.
8 minutes, OK. Oui. On va y aller avec ma chronique. Vu que Linda est là, en fait, là, je voulais rebondir sur son crush d'adolescence. Sur Kurt Russell.
Je voulais rebondir sur Kurt Russell.
Je voulais rebondir dessus. Vous allez voir que...
Attendez.
C'est intéressant parce que là, dans la chronique...
C'est très homo, comme
dans
c'est,
la...
c'est homo.
3,25% de sa grâce.
Oui.
Mais c'est intéressant parce que là, on parlait d'objectifier, justement, sexualiser. Ben, tu sais... La chronique parle un petit peu des stars qu'on sexualise.
Comme moi.
En fait, comme Julien, par exemple.
C'est vrai.
Et sexualisé.
Mon érection revient.
Yeah! Là, on a un show! Yeah.
Alors, Linda, il y a quelques semaines, tu nous avais parlé de ton crush d'adolescent sur Kurt Russell dans La Porte des Étoiles,
oui, mais...
Stargate.
J'arrive pas à l'expliquer aujourd'hui.
T'as pas besoin de l'expliquer parce qu'on décide pas ce genre de choses.
Il est bandant, Kurt.
Hey, mais ça. Ouais, moi, quand j'étais jeune, je trippais dessus.
Oui.
Beau à tout âge.
Oui, c'est ça.
J'essayais de vous envoyer des gifs à un moment donné de Kurt Russell, puis les seuls gifs qu'on voyait, c'est lui en Père Noël dans un film récent.
Mais c'est le pouvoir de Kurt, parce que je suis allée revoir des photos de lui dans La Porte des Étoiles, puis je suis comme, voyons, que c'est ça.
Il est pas beau dans La Guerre des Étoiles, parce qu'il est comme, c'est un militaire avec les cheveux en brosse. C'est pas comme tellement.
Il est beau dans
C'est pas son meilleur.
Big Trouble in Little China.
Ben, justement, j'ai le.
Ben oui!
Parce que je voulais dire, comme justement, on a tous un... Tu sais, toi aussi, t'as un T-shirt qui a rapport avec ta chronique.
Ouais.
Moi aussi. Puis c'est le logo sur sa camisole. Là, les camisoles, comme toi, t'as un peu une... Ben, t'as pas une camisole, mais t'as comme une...
Ouais,
c'est ça, on peut dire ça. Donc, on va parler de camisole aussi.
tu lui donnes le droit?
Non, mais des fois, je suis comme les pièces de vêtements, je connais pas les noms tellement des pièces de vêtements.
C'est toutes des gaminets.
Alors, je me disais que je pourrais vous faire mon top 5 des meilleurs films où Kurt Russell est, selon moi, sexualisé.
Est-ce que les films sont bons ou c'est les bien sexualisés dans ces films-là?
Un peu des deux. Okay, il y a des bons films.
Bon, on va laisser Guillaume aller parce que c'est 5 minutes.
C'est ça. Donc, en fait, sexualisé, je voudrais plutôt dire transformé en objet. T'sais, l'objectivation au cinéma, on y pense surtout par rapport aux femmes. Qui sont majoritairement sexualisés, objectifiés dans le cinéma, mais ça peut s'appliquer aussi à des hommes, souvent de façon moins dégradante et moins fréquente, mais quand même, on peut en parler, on peut le souligner. Donc, la grosse différence, c'est qu'en général, dans un film hollywoodien, c'est le personnage principal est un homme, majoritairement, et le film est fait en fonction qu'on puisse s'identifier à lui. Donc, le langage cinématographique essaie de représenter son regard.
La caméra est un œil.
On s'identifie à l'homme. Même les femmes, les spectatrices, donc, sont encouragées à s'identifier aux personnages masculins qui vont objectifier les personnages féminins, qui vont souvent être là pour être des objets de désir, etc. Ça a été théorisé, en fait, puis on a appelé ça le « male gaze », donc l'idée qu'au cinéma, en général, dans le cinéma dominant, il y a un regard masculin, donc c'est-à-dire un regard qui objectifie les femmes. Mais il y a des théoriciens qui vont étendre, en fait, l'idée de « male gaze » à toute forme de regard qui objectifie un sujet, donc un homme ou une femme. Parce que, donc, il y en a d'autres, des théoriciens, des théoriciennes surtout, qui ont parlé du female gaze, puis de quoi ça pourrait avoir l'air. Puis Iris Bray, entre autres, a écrit un livre sur le sujet, donc qui s'appelle « Le regard féminin », et là-dedans, elle spécifie que le regard féminin, donc c'est pas l'inverse du regard masculin, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'objectifier un homme, finalement, pour que tout d'un coup, ça soit un regard féminin. L'idée, c'est plutôt que le regard féminin, pour se distancer, donc se différencier du regard masculin, au lieu d'objectifier, il subjectifierait, oui, c'est ça. Donc, le sujet qui est à l'écran. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser le spectateur à l'identification, on nous pousse à ressentir ce que la personne ressent. On l'humanise, en fait, et on essaye de se concentrer sur comment la personne se sent, finalement. Alors, j'aimerais ça garder ce sujet-là pour une autre chronique, le female gaze, parce que c'est très, très intéressant, très riche. Et vous parlez du male gaze, mais en s'en allant donc un petit peu plus vers l'idée de l'objectivation. Alors, j'ai un top 5. Il y en a que c'est la dominatrix méchante dans Battletoad. Il y en a d'autres, c'est Kurt Russell. Oui. Donc, dans mon top 5, qui est très personnel, bien sûr, j'exclus les films de Disney parce qu'il est trop jeune. Tu sais, sa période Disney, là, l'ordinateur en folie, un singulier directeur, l'homme le plus fort du monde, etc. Donc, j'exclus aussi La Porte des Étoiles et d'autres films que vous avez vus, que vous aimez, que moi, je n'ai pas vus. Donc, en cinquième position. Oh, alors, Jonathan. Non, ça, c'est la fin, ça. Oh. Attention, ça, c'est la fin aussi. Il faut que tu commences par l'image 5.
Je savais que tu finirais avec Kurt Riley.
Oui, c'est ça. Vous allez voir, ça devient de plus en plus dégradant. Donc, la première image, c'est Kurt Russell dans The Thing. Donc, il est absolument magnifique dans ce film-là.
Oui.
Donc, super beaux yeux bleus, une chevelure incroyable, une belle barbe. C'est un solitaire aussi. Hein. C'est un peu un western, là, The Thing, mais qui se passe en Antarctique. Un film extraordinaire, son meilleur film, le meilleur film de Carpenter. Donc, je le mets allègrement en cinquième position parce qu'il n'est pas tout à fait objectifié dans le film. Donc, il n'est jamais en chess, par exemple, ce qui est pas le cas dans pas mal tous les autres films qui suivent. Mais quand même, c'est un de mes crushs genre important d'adolescence quand même, Kurt Russell dans The Thing. Magnifique. Quatrième position, Escape from New York. Ici, on commence la tradition camisole. Donc, on s'engage sur la route de la camisole. Donc, ici, on a une espèce de veste sans manches, un petit peu cuivrée là, dans Escape from New York. C'est un bad boy, pas rasé.
Tu as demandé sa permission pour appeler ça une veste sans manches?
Ben oui, c'est ça, je devrais. Linda Lais,
oui.
Veste sans manches.
Okay, parfait.
Oui.
Donc, là-dedans, super cute. Le truc qui me le met en quatrième position, c'est qu'il y a une espèce de gros tatouage de serpent sur le chest.
Ah, on aime pas Snake.
Je sais pas, il me met pas complètement à l'aise par rapport à ça. Mais quand même, il est quand même chaud dans ce
complètement.
Troisième position, Big Trouble in Little China. Donc, on continue sur la piste camisole. Camisole, huile. Et aussi, là, il y a le fait que Kurt, à partir de ce film-là, donc, il va jouer les bons Américains un peu niaiseux. Donc, il y a comme c'est le common man par excellence. Et là-dedans, donc, c'est un camionneur qui... Ben, c'est ça, là, il y a la deuxième photo de Big Trouble in Little China qui s'en vient. C'est qu'il y a un moment aussi où il se déguise en homme niaiseux avec des lunettes puis une cravate. Fait que là, je me disais, il est capable de faire du roleplay, donc ça peut être potentiellement sexuel. Donc, il y a tout ce côté-là. Puis aussi, c'est un bon gars, il est très drôle, etc. Puis c'est un macho, mais il est fait un peu pour être objectifié aussi avec ses petites jeans serrées puis sa camisole où ce qu'on voit, ses bras musclés et huilés. Deuxième position. Overboard. Donc, dans Overboard, il est avec Goldie Hawn, sa femme.
Là, on est rendu
avec
du décolleté.
Et les deux sont complètement sexualisés. Donc, c'est un film dans lequel les deux...
Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble.
Oui, c'est un des plus vieux couples d'Hollywood.
Ils sont super stables.
Et oui, ils sont adorables. Puis, dans ce film-là, donc, c'est une espèce de combat des sexes avec Goldie Hawn qui tombe en bas d'un navire puis qui perd la mémoire puis qui pense qu'elle est mariée avec Kurt Russell.
Ça s'appelle Pète et répète en français.
C'est ça. C'est comme le riche. Elle est riche, lui, il est pauvre. Elle est comme millionnaire. Lui, c'est un menuisier, etc. Mais lui, il est tout le temps comme un espèce de petite camisole, check ça, son petit look. Donc, vraiment, il est tout le temps...
On dirait presque une paire de mobettes avec un trou dans le
top. Oui, exactement. Il est vraiment fait, mais Goldie Hawn, dans ce film-là, est aussi sexualisé. Donc, c'est vraiment un bon exemple de male gaze.
Une belle pièce d'homme, on va se le dire.
Oui.
Et je le regarde aujourd'hui, puis je le trouve beau, mais je le trouve pas sexualité. Il m'inspire pas la sexualité.
Tu te collerais-tu, mais tu ferais pas du sexe avec.
Non.
Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Ben, peut-être que dans Silkwood, qui est en première position, de Mike Nichols, c'est un film vraiment déprimant sur une femme qui a été assassinée, une femme syndicaliste qui travaillait dans une usine nucléaire, qui a été assassinée parce qu'elle était trop militante, puis elle s'est faite empoisonner au plutonium.
Pourquoi il est
donc,
dans ce film-là,
dans Silkwood, non seulement il est un rôle secondaire, donc les rôles principaux, c'est Cher, dont on a parlé tantôt, et Meryl Streep, donc qui sont les personnages qui ont justement des répliques intéressantes, des personnages à, comment je pourrais dire, un peu plus profonds. Kurt Russell, donc, il fait le chum de Meryl Streep, qui est là pour la soutenir. Donc, c'est un personnage secondaire, en fait, à l'histoire. Il y a même une scène où lui, en chest, se penche sur Meryl Streep pour lui faire du sexe oral, pendant qu'elle apporte, donc, elle sort de la douche, elle est vraiment pas sexualisée, apporte une espèce de petit peignoir, puis tout ça, puis lui, il est en chest, puis il est comme, je suis là pour toi, puis te faire plaisir. Donc, il est vraiment un peu un boy toy, il sert à pas grand-chose d'autre que lui dire qu'il l'aime, qu'il l'adore, puis qu'il veut lui faire du sexe. Et il est en chest 50% du temps dans ce film-là.
Okay. Parce que c'est un film triste.
Oui, puis à la toute fin, il lui dit au revoir, puis il y a le vent qui lui passe dans les cheveux, il est en chest, puis il a frette un petit peu, donc il y a les bras comme ça.
Jamais il pense à se mettre un chandail.
C'est assez exceptionnel, ce film-là. Donc voilà, c'était mon top 5. Bravo. Et je vous invite à nous faire des suggestions à la maison.
Moi, j'ajouterais le film Miracle, où il joue le coach de l'équipe américaine de hockey.
Je l'ai pas
vu. Il fait un petit bon speech
de ce moment.
Mais il est habillé.
Mais il est bien habillé.
Il est bien habillé. Disney possède une équipe de hockey. Ben là, je pense qu'ils ont plus.
Les Ducks.
Les Ducks. Fait qu'à cause de ça, ils ont fait des films de hockey pour ramener. Parce que les Américains n'aiment pas le hockey sans Christ. Fait qu'ils font des films de hockey pour comme l'amener dans le Zeitgeist un peu. Hey, regardez, c'est hot le hockey. C'est sûr que Miracle, ça existe.
Ouais, puis c'est vraiment un bon film pour les
amateurs
de films de sport. Puis le speech, son speech, c'est comme un speech épique qui est comme qu'on se raconte là, dans les gens. Dans le temps que j'écoutais le sport, tout le monde qui écoute le sport connaît ce speech-là.
Comme un film où ce qui est vraiment le bat moulé dans ses jeans, mettons.
J'en ai pas vu, mais dans Silkwood, souvent, 25% du temps qu'on le voit en chest, en jeans, le bouton du haut de ses jeans est déboutonné aussi.
Ça, Guillaume, il l'a remarqué.
Il est tout le temps couché, il joue du banjo, tu sais, il est vraiment comme, tu sais, c'est vraiment
un garçon séduisant. Mais il n'y a pas le bat moulé dans
ça. OK, d'accord. Ouais. Je voulais juste conclure sur la dernière photo, là, le zéro, le curve zéro. C'était un sondage que j'ai trouvé en ligne sur dans lequel film Kurt Russell est le plus hot.
Est-ce que c'est 50-50?
Est-ce que c'est Overboard ou c'est Silkwood? Puis les gens ont voté Silkwood dans ce petit sondage-là, finalement.
Ben, merci
donc,
beaucoup, Guillaume.
C'est pas un hasard que je les ai mis en deuxième et première position.
Kurt Russell n'a plus de secret pour nous. Merci, Guillaume. Merci, Jonathan. Merci, Linda. Julien. Merci, Mathieu. Ouais.
Le 15 juin prochain. Dans le cadre du Minifest.
C'est exact.
À la Maison de la Culture Maisonneuve, dans le Cube, on va faire un spectacle de live de nous, de Décis et des Rêves.
C'est vrai,
oui. Fait que allez sur le site de Minifest.
C'est 10$.
Ouais, 10$, vous pouvez venir voir le show live. La dernière fois, on avait fait
Les Pieds et du Lait
là-bas.
C'est sur Minifest.
Oui, c'était dans le cadre.
OK, d'accord. Bon.
Au Festipod, je sais plus.
Je pense que c'était au Festipod.
Je sais plus.
J'ai pas donné mes dispos. Est-ce que je suis
ben,
là?
Le 15 juin, si t'es là.
Ouais.
Ouais, ton nom est là, Murphy Cooper.
Est-ce qu'on a une thématique?
On ne sait pas encore. On aime ça faire des thématiques quand on fait des lives.
On pourrait tous être des Murphy.
On pourrait tous être des Kurt Russell.
Oh, t'aimerais-tu ça, Murphy?
Oui.
Oui.
Vous l'aviez fait à ZooFest?
Toutes des Murphy?
Non, mais vous m'avez imité, je pense, à un moment
donné. Oh, c'est très possible.
Ouais.
Merci beaucoup, Murphy. Uh-huh. Merci, Alex. Merci, Jonathan. Je ne sais plus. En tout cas, voilà. On continue donc sur pour les membres Patreon. On continue avec toujours le vent. Merci déjà à chaque semaine. Merci, les amis. OK, bye!
À Bélardine!
Salut tout le monde!
Salut!
Plus de rue, plus les capables, plus politique, plus rapide, ici et d'ailleurs.
Loft.